pays. 9 milliards d'euros ont été concédés aux socialistes dans ce nouveau budget. Est-ce que c'est tout ce, cette manœuvre a été faite pour tourner la page et permettre au président Macron d'entamer une lourde séquence internationale avec les menaces de Donald Trump sur le Groenland et ses partenaires européens? Il y a le dossier de l'Iran, de la Syrie qui sont aussi des dossiers brûlants. Nous allons analyser tout cela ce soir avec nos invités, nos experts. Louis de Ragnel est avec nous. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Rachel Kahn,
bonsoir,
merci d'être avec nous. Marc Toiti, économiste. Éric Revel est avec nous. On va commencer par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il s'est exprimé il y a quelques instants lors d'une conférence de presse. Écoutez ce qu'il dit. Il dit engager la responsabilité de son gouvernement avec amertume.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre.
Gauthier Lebret nous a rejoint. C'est un semi-succès pour vous, bonsoir, ou un semi-échec pour Sébastien Lecornu?
Non, mais c'est un échec complet. Il n'y a pas de semi-succès ou de semi-échec. Quand vous prenez un engagement devant les Français en arrivant à Matignon en disant « je n'utiliserai jamais le 49-3 » et trois mois plus tard, vous l'utilisez, bah, voilà, l'échec est cuisant. Mais évidemment, pour survivre, c'était sa meilleure carte parce que les ordonnances, vous reveniez à la copie initiale, donc sans toutes les concessions faites à la gauche. Et on a bien compris que le PS réclamait même le 49-3. François Hollande réclamait le 49-3. C'est pour ça que la semaine dernière, moi, je ne croyais pas aux ordonnances. Et donc, le 49-3, bah, il va être abattu, la carte va être abattue par Sébastien Lecornu, et il va être sauvé par les socialistes, et très probablement par les LR, parce que les Républicains, ils n'ont pas du tout envie de retourner aux urnes, même si Laurent Wauquiez est flou en disant « le budget n'est pas bon, il faut que je l'étudie, ça fait trois mois qu'on est dessus, donc on sait s'il est bon ou pas, pour voir si on censure. » Les LR n'ont aucune envie de retourner aux urnes. Ils avaient plusieurs fois l'occasion de censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ils ne l'ont jamais fait, y compris quand il a fait son discours de politique générale, où on a compris qu'il s'asseyait sur la seule réforme du quinquennat Macron en cours, c'est-à-dire la réforme des retraites. Donc ça va donner encore évidemment un discrédit à la parole publique, c'est-à-dire que les Français, ben, on leur fait une promesse trois mois plus tard, on la tient pas. Généralement, ça dure un peu plus longtemps quand même quand on leur fait des fausses promesses. Donc ça n'engage évidemment que ceux qui les croient comme à chaque fois. Et alors par contre, vous avez dit dans votre édito, effectivement, ce qu'a dit Sébastien Lecornu, on va arrêter
de se donner en spectacle aux yeux du monde entier.
Ah oui, alors, scoop, le monde entier se fout du budget de la France.
Se fiche.
Voilà. Oui, ça va, c'est pas non plus trop grossier.
Un petit peu.
D'accord.
Permettez-moi de vous...
Se fiche du budget de la France. Le monde entier est au courent, effectivement, sans doute qu'il y a eu une dissolution complètement.
Le monde entier se retrouve à Davos demain et avec le président Macron.
Oui,
aussi.
Mais enfin...
Voilà. Non, mais il voudrait bien avoir un petit budget. Tout seul,
voilà, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Effectivement, quand on veut donner des leçons à la terre entière, vaut mieux que ça soit bien rangé chez soi. C'est un désordre pas possible à cause d'une dissolution inconséquente dont les conséquences ne font que s'accumuler. Mais savoir si le monde entier est intéressé par les par les débats budgétaires en France, excusez-moi, il y a peu de chances qu'aux États-Unis on soit un sujet de conversation.
Quand même, vous seriez étonné. Marc Toiti, là on va avoir un budget, donc je le disais, il y a 9 milliards de dépenses supplémentaires, donc ça, il n'y a pas beaucoup d'économies, hein, il y a beaucoup de dépenses, pas beaucoup d'économies. Mais c'est bon pour le pays ou pas pour l'activité économique?
Pas du tout. Nous sommes déjà la risée du monde. Nous sommes le pays de la zone euro où il y a le plus fort déficit public. Ah oui. Mais encore une fois, c'est une réalité. Hier, on me dit non, mais il faut être aussi optimiste. Moi, je suis optimiste, mais il faut être réaliste. Ça vous fait rire. Non, je suis optimiste, mais il faut être avant tout réaliste. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui est quand même dramatique. On va avoir un budget qui va exploser les compteurs. Je vous dis qu'on se rapproche de 6% par rapport à notre PIB de déficit public.
Il a juré 5%.
Mais
clairement, on voit bien que ce sont des simulations qui n'ont pas lieu d'être. Il tape sur une croissance qui sera au-dessus des 1%. Si on est à 0,5%, ça sera déjà énorme. Et puis parallèlement, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il y a un manque de discernement économique incroyable. Alors, de la part de certains députés, on peut comprendre, mais là, de la part des dirigeants français, du ministre, du Premier ministre, quand on nous dit, oui, on va taper les 300 premières entreprises françaises, et puis donc, les Français ne seront pas concernés. Mais quel manque de discernement! Les 300 entreprises françaises les plus grandes, eh bien, ce sont souvent des fleurons, hein, jusqu'à présent, et elles embauchent plus de 8 millions de personnes personnes. Donc si demain, évidemment, elles ont des difficultés économiques, elles vont licencier, donc le chômage va augmenter, donc ces personnes-là sont tout à fait concernées, donc tous les Français sont concernés, parce que la croissance française va encore s'effondrer, donc on aura plus de chômage malheureusement, plus de déficit, plus de dettes. C'est un cercle pernicieux dramatique, et je suis triste pour l'avenir de notre pays.
Écoutons un deuxième extrait de Sébastien Lecornu. Là, alors, il prend pour cible LFI et le RN. Il les traite, je crois, de tentatives de sabotage. Écoutez.
Je rappelle que les ministres et le gouvernement ne siègent pas dans cette commission. Des échanges avec les ministres et les formations politiques entre Noël et le jour de l'an qui ont laissé à montrer qu'un chemin était possible. Une reprise des débats en commission à l'Assemblée nationale avec très vite un raidissement, et je l'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises, des tentatives très claires de pression, de sabotage, notamment de la part de la France insoumise et du Rassemblement national, puis progressivement la désertion de certains groupes politiques qui, jusqu'alors, bien que groupe politique dans l'opposition très exigeant avait accepté de mener un travail de fond, je pense aux écologistes et aux communistes, ils ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte, mais enfin, que je ne comprends pas, je les respecte mais je ne les comprends pas, c'est de ne plus venir à ces réunions de travail depuis le début du mois de janvier.
Bon, tout le monde en prend pour son grade, Louis de Ragnel. Il avait déjà traité LFI et le RN de tireurs embusqués ou je sais pas.
Absolument, tireurs couchés.
Voilà, et là, donc, des saboteurs.
Alors, s'ils sont des saboteurs, il y a le grand artificier, c'est quand même Emmanuel Macron, qui a donné des barils de poudre à tout le monde pour que tout le monde s'entretue à l'occasion de la dissolution et pour amener à cette situation-là. Donc, c'est vrai que le mot saboteur n'est peut-être pas très approprié à la situation.
Écoutons peut-être une réaction politique, celle de la France Insoumise. Éric Coquerel était il y a quelques instants sur notre antenne. Puis je vous passe la parole, Éric Revel. Écoutons le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Pas se tromper d'Éric.
Effectivement, ça va être le coup de force. Alors pour faire passer ce coup de force, il a utilisé le leurre des ordonnances comme si c'était une question. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas d'actualité. Mais on se retrouve devant un 49-3, tout simplement parce que ce gouvernement est minoritaire et que pour essayer de passer un budget minoritaire, il utilise le moyen du coup de force que lui donne la 5e République. C'est bien dommageable. À chaque fois qu'il y aura un 49-3, il va y en avoir trois, en fait. Hein, c'est-à-dire deux pour le budget, là, recettes et dépenses, et un à la fin, quand ça va revenir du Sénat. Et bien évidemment, on va essayer à chaque fois de le censurer parce que ce budget n'est pas bon et qu'il faut l'arrêter.
Voilà pour Éric Coquerel.
Écoutez, moi, je trouve en tout cas une ligne directrice à ce que dit Éric Coquerel, c'est que LFI, au moins, n'a pas réclamé, comme le Parti Socialiste, la suppression du 49-3. Vous vous souvenez, M. Faure, qui expliquait que l'utilisation du 49-3 pour voter un budget, c'était faire taire la démocratie. C'était faire taire la démocratie. Vous vous souvenez ?
Oui, absolument.
Bon,
oui.
C'était faire taire la démocratie. Et puis voilà nos socialistes qui sont prêts à voter un budget avec le 49-3.
En 2026.
Là, le divorce dont parlait Gauthier Lebret sur les Français et la politique, il est archi-consommé. Il est archi-consommé. Et j'ajoute, parce que je le pense vraiment, je le disais tout à l'heure, je le répète, c'est qu'ils font une énorme erreur politique en faisant ce qu'ils font, monsieur Lecornu. C'est qu'en fait, ils installent un face-à-face entre le RN et LFI. Voilà. C'est-à-dire que les LR qui ont voté à 18 députés, ils ont voté à 18 députés le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Les socialistes qui, pour sauver leur siège, sont prêts, avec un 49-3, allons-y, à voter ce budget, en fait, ils sont en train de s'autodissoudre. Et le face-à-face qui est en train de mettre en place ce gouvernement et M. Macron, c'est un face-à-face RN et les filles.
Vous êtes d'accord avec ça, Gauthier ?
100% d'accord avec ce que vient de dire Éric Revel.
100% politique.
Parce que, effectivement, en ciblant...
Vous avez pas
LFI la et si je... c'est l'émission que je présente le soir, je crois. Si ça va, j'ai pas non plus. J'avais un anniversaire samedi, mais enfin, je suis encore serein.
Allez-y, Gauthier.
Si LFI et le Rassemblement National sont vus comme les seuls opposants à ce budget et au gouvernement, c'est-à-dire que les seuls qui censurent à chaque fois le gouvernement de Sébastien Lecornu. Effectivement, en ce moment, on peut pas dire que Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron brillent par leur popularité. Et bien donc, le choc, et en plus ça va avec le sens de la polarisation du débat public, avec ce que pensent les jeunes qui votent très souvent soit la France Insoumise, soit le Rassemblement National. Et bien effectivement, on y va. Parce qu'il est quand même gonflé, Sébastien Lecornu, je vais dans le sens de Louis, de dire que LFI et le RN sont des saboteurs, alors qu'ils sont sur une ligne très claire depuis le départ. C'est les seuls. C'est-à-dire qu'ils censurent à chaque fois et ils s'opposent à ce budget. On est d'accord ou pas? Mais au moins, ça a le mérite d'être lisible. Quand vous voyez les petits calculs politiques pour tous les autres où il faut sauver son siège et pas retourner aux urnes, et quand vous vous souvenez évidemment que le premier saboteur, il est à l'Élysée, c'est lui qui a décidé de cette dissolution, bah après, aller reprocher ça à la France Insoumise ou au Rassemblement National.
Mais là, ce dimanche sur les marchés, quand ils iront, leurs électeurs diront, mais vous avez voté contre la prime d'activité, quand même, pour le complément de revenus pour les travailleurs à revenus modestes. Vous avez voté contre le repas à 1 euro pour les étudiants. C'est ça qu'ont dire les électeurs.
Mesures au milieu.
Non, mais
au milieu d'un. Je ne pense pas. Parce que
je ne
suis pas sûr que les électeurs ils aient suivi point par point ce qu'il y a dans ce budget. Par contre, il doit alors rester comme en mémoire que c'est un budget avec beaucoup plus d'impôts, que c'est un budget où on ne réduit pas la dépense publique. Ça, peut-être qu'ils l'ont compris. Après, savoir si le repas à 1 euro est l'alpha et l'oméga de la politique française.
Les APL.
Oui, enfin, c'est des mesures au milieu d'un budget où il y en a des dizaines d'autres.
Bon, Rachel Kahn, je vous ai pas entendu depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de
cette séquence dans laquelle on se retrouve. L'ensemble des partis politiques ne font que répéter la même chose depuis un an et qu'effectivement, là, le gouvernement creuse un sillon idéologique en vue des élections municipales qui est de mettre le RN et LFI dos à dos. Après, on sait très bien que cette situation démocratique et ce Parlement est bloqué. Il n'y a aucune vision politique sur ce budget. Et vraiment, je reste stupéfaite du fait que dans une démocratie, les 300 heures de débat effacent une parole politique qui était la parole politique de Sébastien Lecornu.
Très très vrai. Autre réaction de ceux que le Premier ministre a qualifié de saboteurs, donc le RN par la voix de Laurent Jacobelli.
C'est une double prise d'otage, la prise d'otage du peuple français qui ne veut plus d'Emmanuel Macron et de sa politique et qui se retrouve contraint de devoir digérer un budget purement macroniste, et la prise d'otage de M. Lecornu par le Parti Socialiste qui impose, alors qu'il ne représente que 2% des Français à la présidentielle, exactement ce qu'il veut pour ne pas dessouder le poste de M. Lecornu. C'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Ils préfèrent garder leur poste que œuvrer à l'intérêt général. C'est très triste, en fait, comme fin de règne.
Voilà pour Laurent Jacobelli. Marine Le Pen a réagi. Elle dénonce les annonces irresponsables pour acheter le PS au mépris de l'intérêt national. Annonces qui se traduiront par plus d'impôts, plus de dettes. Et le groupe RN déposera évidemment une motion de censure qui peut-être ne sera pas adoptée. Louis Dragnel, si on fait les comptes, RN plus LFI n'arrive pas,
pour les raisons
à faire tomber le gouvernement
Lecornu. C'est-à-dire que le PS et LR n'ont aucune envie de repartir.
Non, et le RN ne s'est jamais adopté de toute façon, puisque LFI ne vote pas.
Mais par contre, pour les LR, c'est quand même surprenant. Encore une fois, parce que là, on a le moyen justement de s'opposer. C'est-à-dire que globalement, il va justement voter pour une augmentation des impôts.
Ils ont plusieurs ministres au gouvernement.
Ils ont déjà accepté. Mais c'est ça. Parce que là, a priori, je pense que là, c'est le LR qui peut être l'arbitre. Puis justement pour faire tomber et refuser finalement ce budget, pour avoir un budget plus sérieux, parce que ce budget est absolument pas sérieux. Je vous rappelle que déjà à la base, on a mis de côté la réforme des retraites, faut quand même pas l'oublier. Donc on augmente les impôts pour tous les Français. Il n'y a pas que les grandes entreprises ou les très riches qui vont payer. Tous les Français vont payer davantage. La CSG qui va augmenter également, y compris sur le plan d'épargne retraite. Rendez-vous compte, on dit aux Français, faut constituer votre retraite, donc faites un plan d'épargne retraite, mais on va augmenter la CSG qui taxe les plans d'épargne retraite. Ce n'est même pas crédible, vous voyez. Donc c'est ça qu'aujourd'hui on gagne. Quelques semaines, encore une fois, quelques mois. Et moi, je pense que les Français ne veulent pas des aides. Les Français, ils veulent des vrais boulots. Ils veulent, je dirais, une vraie activité économique.
Donc, c'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Gagner leur vie correctement.
On entretient aujourd'hui cette pauvreté.
Et
c'est ça qui est extrêmement dangereux. La classe moyenne est en train de s'appauvrir. Et c'est très triste, justement, de voir comment évolue notre pays.
Vous avez vu dans l'allocution depuis Matignon, qui avait d'ailleurs un côté un peu lugubre, de nuit, comme ça, très mal éclairé, sur la forme de Sébastien Lecornu.
C'est la semaine dernière.
Oui, c'est vendredi dernier. Vous avez vu. Pas une baisse de la dépense. Que des dépenses. Toutes les annonces, c'était on ouvre les robinets et on continue, on dépense, parce qu'effectivement, il faut acheter le Parti Socialiste, donc ça coûte de l'argent, et voilà, et on se réveille le lundi matin en gueule de bois, hausse de la CSG. Donc ce n'est que ça, c'est-à-dire dépenser, taxer.
Et surtout, je vous rappelle que nous sommes déjà numéro 1 du monde des dépenses publiques et numéro 1 du monde des impôts. Donc on va encore augmenter cette charge pour les Français, et c'est ça qui va nous faire.
C'est bien vous qui ralliez contre la baisse des tickets restaurants, des chèques cadeaux.
Ah non, c'est bien c'était le pas la baisse, Laurent, c'était un nouvel impôt. Ah non, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout la baisse, c'était une taxe.
Oui, c'était une petite taxe.
Ah bah oui, ah oui, je raconte les taxes, ça je vous le confirme. C'était une taxe nouvelle, on voulait taxer davantage, et donc évidemment, bah, y aurait eu moins d'effets du chèque cadeau pour Noël pour les salariés, ou du ticket restaurant. Ils ne savent faire que ça. Là, vous donnez de l'eau à mon moulin, ils ne savent faire que ça. Ils voulaient même taxer le ticket restaurant ou le chèque cadeau pour Noël. Taxer et dépenser. On a eu un certain nombre de budgets depuis la dissolution, certains n'ont même pas été adoptés. Il y a eu l'ébauche de Michel Barnier, il y a eu le budget de François Bayrou, on en est à celui de Sébastien Lecornu. Un budget, un Premier ministre. Bon, qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Dépenser sans compter. On est dans un état lamentable des finances publiques, avec 1000 milliards de dettes en plus grâce au président Emmanuel Macron. Alors, et il n'y a pas le début d'une économie. Alors, et par contre, pour taxer, là, ils ont des idées. Pour financer leurs dépenses publiques, qui évidemment, en plus, n'est même pas finançable, tellement c'est une dépense publique qui n'a plus de limite.
Je passe la parole dans un instant, Eric Revel, je vois que vous trépignez, mais Élodie Huchard aussi trépigne avec Jean-Laurent Costantini devant l'Élysée. Vous avez assisté à ce compte-rendu de M. Lecornu. Qu'est-ce que vous en retirez, Élodie ? Le gouvernement est gêné ou finalement il se dit allez, on tourne la page de ce fichu budget pour entamer une séquence internationale compliquée pour Emmanuel Macron ?
Oui, évidemment, Laurence, il y a cette volonté de tourner la page. Attention, quand même, la page, elle n'est pas encore totalement tournée. Il va falloir une quinzaine de jours et 3,49,3 au total avant d'être sûr que le gouvernement ne soit pas renversé et que donc, de fait, le budget soit adopté. Alors, Sébastien Lecornu l'a dit, il n'y a pas d'accord de non-censure, il n'y a pas d'accord secret. En revanche, il a fait un certain nombre de concessions et on a entendu notamment les socialistes expliquer que pour l'instant, évidemment, ils ne pensaient pas à censurer le gouvernement Lecornu. Du côté des Républicains, c'est pareil, on trouve pas que cette copie soit franchement formidable, mais on se rappelle de la menace émise par le Premier ministre. Attention, si il y a une motion de censure, il y aura donc une dissolution. Sébastien Lecornu et les députés ont donc envie aussi de sauver leur siège. Et effectivement, Sébastien Lecornu, il l'a dit, ça n'est pas de gaieté de cœur qu'il recourt à l'article 49.3. Il explique que ce n'est pas forcément de son fait, qu'il avait d'abord cédé aux socialistes, cette même force politique qui demande maintenant de passer par le 49.3. Et puis du côté de l'entourage du chef de l'État, on nous explique qu'Emmanuel Macron avait prévenu, il voulait un budget et de la stabilité politique et qu'à partir du moment où son Premier ministre arrive à garantir les deux, eh bien, il est soutenu par le chef de l'État.
Merci beaucoup Élodie Huchard, Jean-Laurent Costantini, de la stabilité, Eric Revel.
Il n'en aura pas jusqu'à la prochaine dissolution si tant est qu'elle puisse apporter une... Non mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant ce temps-là, les Français s'appauvrissent. Je ne sais pas si vous avez vu ce classement qui est très éloquent, sur 30 pays européens, en termes de ce qu'on appelle le per capita, le revenu disponible par Français,
par habitant,
le classement européen, on arrive en 16e position, on ne cesse de dégringoler. Par exemple, vaut mieux être un salarié moyen aux Pays-Bas, ou dans d'autres pays européens, en Allemagne bien sûr et dans d'autres, qu'en France. En fait, on ne cesse de perdre de l'argent tous les ans. Puis deux chiffres que je veux rappeler aussi, Laurence, 1,4 million de jeunes aujourd'hui sont sans travail, sans formation, sortie du système scolaire. 1,4 million de jeunes. Et puis 25% des Français, il y a 9 millions de pauvres en France, à partir du 18 de chaque mois, n'ont plus d'argent pour finir le mois et sont à découvert. Ça, c'est une réalité économique que chacun ou que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui.
On est allé sur un marché, justement. Je vous repasse la parole ensuite, Rachel Kahn, juste pour avoir le sentiment des Français. Parce que, effectivement, on a ces discussions budgétaires, ce 49.3 qui tombe, là, désormais. Et puis la réalité, c'est que souvent, dès le 15 du mois, eh bien, il y en a qui n'arrivent plus à faire leurs courses. Regardez et écoutez ce reportage.
Comment faire ses courses, se faire plaisir, tout en respectant un budget parfois serré ? C'est le défi auquel sont confrontés de nombreux Français.
Encore plus en travaillant dans l'enseignement, c'est difficile d'arriver à tout payer et qu'il reste un petit peu pour le plaisir.
Effectivement, les prix ont augmenté depuis un certain temps et vu que les salaires n'augmentent pas avec les prix, effectivement, ça paraît difficile pour les gens de garder le même train de vie.
Une situation qui touche toutes les catégories sociales.
Dans mon cas, bon, je suis quand même... J'ai un travail stable qui est pas mal rémunéré, mais j'ai vu, oui, avant je pouvais économiser plus. Sur l'alimentation, c'est beaucoup plus compliqué. Les légumes, la viande, le poisson.
Même quand on a des rémunérations qui pourraient être satisfaisantes dans la classe moyenne, tout à fait. Les produits à la consommation courante sont très très chers.
Alors que les débats budgétaires devraient reprendre ce mardi à l'Assemblée nationale, ils sont nombreux à estimer que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte au sommet de l'État.
Je trouve que ceux qui font le budget, ils ne viennent pas acheter au marché. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui sont très très loin des soucis des Français.
Selon le dernier baromètre Cofidis sur le pouvoir d'achat, un Français sur deux dit vivre sous contrainte budgétaire. Le pouvoir d'achat reste d'ailleurs leur principale inquiétude devant la santé puis l'insécurité.
Voilà les préoccupations des Français, évidemment. Oui. Elles sont très très claires.
Hein. Évidemment.
Et puis, sécurité, pouvoir d'achat.
Évidemment. Évidemment. J'ai bien aimé cette femme qui justement était dans ce marché et soulignait le fait que les politiques n'avaient pas conscience de ce qu'était un marché. Les politiques vont sur les marchés quand il y a des campagnes. Et ben oui, c'est ça. C'est leur seul moment où ils sont là en train de prendre un petit peu la température du terrain pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est vrai qu'on avait vu Sébastien Lecornu avec un poireau dans son sac en début de nomination. Oui. Mais au-delà de ça,
peut-être il le fait vraiment son marché.
Mais je sais pas. Oui. Mais là, moi, la situation.
Vous avez des femmes politiques qui envoient leurs épouses.
Avec des poireaux, le spectacle politique, ça ressemble plus à un navet.
Non, mais par contre, c'est vrai que il y a un vrai drame aujourd'hui, si vous voulez, de point de vue marketing, justement, parce qu'on n'arrête pas de dire oui, l'inflation baisse, etc., alors que les Français souffrent. Pourquoi ? Parce que les prix, notamment de l'alimentation, continuent d'augmenter. Rendez-vous compte, depuis le chiffre de l'INSEE, depuis 2021, les prix ont augmenté de 24% dans l'alimentation. 24% sur l'énergie, 30% en France, prix à la consommation. Donc, je ne parle même pas des loyers. Donc, il n'y a pas beaucoup de Français pour qui les revenus ont augmenté. De 24% depuis 2021. Donc c'est ça qui colle plus. Et donc quand évidemment on voit qu'aujourd'hui les députés font tout pour garder leur poste à l'Assemblée, eh bien entendu les Français ne captent pas, mais ne sont pas prêts à accepter tout cela. Donc c'est ça qui... Moi je parlais même de mépris. C'est presque un mépris qu'ont les dirigeants français vis-à-vis de l'ensemble de la population, parce que justement ces Français souffrent. Et aujourd'hui justement le fait de leur dire « vous inquiétez pas, c'est les riches qui vont payer les grandes entreprises », c'est complètement faux, parce qu'à la fin c'est la classe moyenne qui paye, c'est là qu'on augmente les impôts, c'est là où il y a du chômage. Et c'est ces Français-là qui malheureusement vont souffrir.
Non, mais vous avez raison de le rappeler. Mais à la fin, c'est toujours les mêmes qui payent.
Autre cas très concret qui parlera à tout le monde, il y a une pénurie d'œufs en ce moment en France.
Absolument.
Alors il y a deux raisons. La première, c'est les normes européennes de folie qui font disparaître les cages à poules à partir de 2030 à 90%. D'ailleurs, ces cages à poules, on les retrouve parfois dans des pays qui produisent des poules et des œufs qu'on importe après chez nous. Mais bon, mais
et les normes françaises, parce qu'on en rajoute.
Et les normes françaises. Mais l'autre raison, c'est que l'œuf permet d'avoir une quantité de protéines qui est beaucoup moins chère que la viande, dont le prix a augmenté aussi. Mmh. Ça, c'est un autre indice de la paupérisation des Français.
Mais ça, c'est très juste le sujet des œufs, parce que Annie Genevard, elle a fait une petite vidéo pour s'en plaindre. Sauf que c'est toujours pareil, normes européennes auxquelles on rajoute des normes françaises, surtransposition des normes pour être les premiers de la classe en termes de normes. Et on se rend compte qu'il y a une pénurie d'œufs dans certaines grandes surfaces. Et on dit, ah mince, oui, c'est vrai, pas de chance. Mais enfin, on a créé cette situation-là. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, on va signer le Mercosur qui va s'appliquer à nous même si on est contre. On va avoir une concurrence déloyale sur la viande, par exemple. Et là, on va se dire, ah, mais les producteurs français sont en grande difficulté. Il y en a de moins en moins. Exemple encore un, les poulets, on a un marché français, un poulet sur deux vendu est un poulet ukrainien sans taxe douanière parce que l'Ukraine faisait la guerre à la Russie, ou l'inverse.
Elle le faisait toujours.
Et donc on a dit plus de taxe douanière, on prend tous les poulets ukrainiens qui sont évidemment produits dans des conditions totalement différentes que les normes qui s'appliquent en France. Et donc là on a une concurrence déloyale puisque le poulet est vendu beaucoup moins cher. Et pareil, à la fin on finira par le regretter, mais qu'on aura plus de poulet, plus de viande française, plus d'œufs, on fera que constater l'échec d'une politique qui, évidemment, est suicidaire.
Encore les décisions de nos dirigeants, c'est qu'ils sont dogmatiques, complètement dramatiques, et ils ont sacrifié l'agriculture française depuis déjà des décennies. Alors, on se réveille aujourd'hui comme, tous les deux ans, il y a une crise agricole, mais c'est encore une fois toutes ces mesures qui ont été prises, cette fiscalité qui augmente, qui est dramatique pour l'ensemble des agriculteurs français, pour l'ensemble des entreprises françaises. Et donc, on continue, c'est ce dogmatisme qui, malheureusement, appauvrit la France, appauvrit les Français.
Un tout petit mot, quand même, des conséquences politiques de ce 49-3 que le Premier ministre va dégainer demain. Les grands gagnants de la soirée, incontestablement, sont les socialistes. On va écouter Jérôme Gage qui dit finalement le 49-3, c'était la bonne solution.
Quant au recours au 49-3, il intervient au moment où il n'y a pas d'autre solution. Le Premier ministre a respecté sa parole en ne dégainant pas le 49-3 au tout début du processus et en imposant sa seule vision à lui tout seul. Là, c'est un 49-3 qui constate qu'il y a des groupes politiques qui ont refusé de rentrer dans la logique du compromis. Je le regrette, mais c'est la seule solution et maintenant il y a besoin de celle-ci.
Voilà, le Parti Socialiste gagnons, a dicté ce budget.
Gagnons à court terme. Gagnons à court terme. À long terme, je pense que leur... parce qu'il en reste quelques-uns, leurs électeurs leur en voudront. Oui, il en reste quelques-uns par-ci, par-là. 1,5% à la dernière présidentielle.
7.
Jérôme Gage, très bien. On est quand même maintenant avec des députés de l'opposition qui réclament le 49-3. C'est-à-dire qu'avant, c'était pour contraindre sa propre majorité. Maintenant, c'est des députés de l'opposition
qui disent qu'un nouvel ordre est en train de s'installer.
Sortez-nous de là. On veut pas voter le budget parce que là, ça serait quand même malhabile face à nos électeurs. Mais on veut pas vous censurer non plus parce qu'on veut pas les retrouver, justement, nos électeurs, de peur qu'il y en ait plus, justement, et qu'on retrouve pas nos sièges de députés. Donc, on veut pas d'une nouvelle dissolution parce que c'est le fameux chiffon rouge. Dès qu'Emmanuel Macron a peur qu'un budget, une loi ne soit pas adoptée, maintenant, c'est attention, je vais dissoudre. Attention, je fais un malheur et puis il se passe jamais rien. Et ça va être le même problème pour les Républicains qui réclamaient eux aussi, quelque part, l'usage du 49-3.
Oui, ils vont voter ce budget parce que Laurent Wauquiez dit que c'est un budget très imparfait, malgré des avancées obtenues par la droite.
Il n'y aura pas de vote.
Ils ne voteront pas la motion de censure, en revanche. Donc, ils ne feront pas tomber le gouvernement.
Merci. Rachel Kahn, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence, vous? Alors, parce qu'elle va mettre les Français, qui sont assez désespérés du spectacle. Il a raison, là-dessus, Sébastien Lecornu, donné par la politique. Oui. Ça ne va pas les rapprocher, on va dire, de leurs élus.
Non, ça ne les rapproche pas du tout. On est dans un mois et demi des élections municipales. Après, je trouve assez fou que le Premier ministre nous rappelle les enjeux nationaux et internationaux parce qu'il n'en a eu pas vraiment la mesure depuis tout le temps qu'il est là, je trouve. Mais effectivement, là, j'ai l'impression que cette scission entre les citoyens et la politique n'a fait que s'accélérer au fil des mois. Et là, on a encore ce sketch entre une parole non tenue, des jeux des partis politiques, le PS, mais pardon, entre la NUPES, je suis contre la NUPES, je me désolidarise de LFI, mais en même temps, on va voter avec eux. C'est juste insupportable.
Bon, Éric Revel, on va essayer de remettre l'église au centre du village pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Demain, nous aurons le premier 49-3. Donc, première partie sur les dépenses, c'est bien ça? Deuxième de 49-3 sur les recettes.
Puis ensuite,
troisième 49-3.
Ensuite, le débat avec le Sénat. Puis...
Quand est-ce qu'on aura un budget, alors, en gros?
Mi-février.
Mi-février, il avait promis fin décembre. Hein, il a d'ailleurs redit qu'il n'avait pas tenu ses promesses. Là non plus, bon. Alors, mi-février, de quelle année on peut se dire. Bon. Mais en fait, donc, trois 49-3 qui vont s'enchaîner. Avec des socialistes donc qui vont trouver ça formidable. J'aime beaucoup Jérôme Gage, mais pardon, quand j'entends les socialistes qui, encore une fois, mais regardez les phrases qu'ils ont prononcées, c'est un déni de démocratie si vous passez par le 49-3, c'est faire taire la démocratie parlementaire si vous passez par le 49-3, notamment sur le budget,
Il y a sa carte du PS, hein.
Et là, une fois, Lebret m'avait...
De temps en temps, oui.
Et là, vous avez les socialistes qui disent, alors, mais passons par le 49.
Bien sûr.
Écoutons Aurélien Lecoq de la France Insoumise, lui dit que le PS a vendu son âme au diable.
Les socialistes ont vendu leur âme au diable et ont décidé une nouvelle fois de sauver Emmanuel Macron, son Premier ministre, mais aussi sa politique d'une violence sociale inouïe, puisque désormais, Lecornu, avec la direction socialiste, organise le passage en force, le piétinement de l'Assemblée nationale, mais surtout le piétinement de l'opinion de l'ensemble des Françaises et des Français. Parce que le budget qu'ils vont passer en force, c'est un budget dans lequel il va y avoir 13 milliards de saignées sur nos services publics, sur l'État, où il va y avoir 7 milliards de saignées sur nos collectivités territoriale, ça veut dire nos mairies, mais ça veut dire demain que le passage en force organisé main dans la main socialiste et macroniste vont provoquer la fermeture de places de crèche peut-être dans nos communes, vont provoquer le fait qu'on ne puisse pas développer les transports en commun.
Voilà pour la France Insoumise. Bon, ils mettent le dos, ça fait mal ou pas, Rachel?
Non, il est complètement en campagne. Les histoires d'écoles primaires, de transports en commun, tout ça, c'est municipal. Donc moi, je pense que le débat budgétaire, aujourd'hui, il est malsain encore plus parce que on va le voter, ça va être le premier, finalement, le premier acte de la campagne des municipales.
Exactement. Ouais, mais ce qui est clair, c'est que, voilà, encore une fois, on vient sur les marchés, c'est-à-dire que les électeurs, il en reste encore du PS et même de LR, moi, ça m'inquiète, parce que quand, évidemment, ils vont voir leurs électeurs, on va dire, mais vous avez finalement soutenu cette augmentation des impôts, cette augmentation des dépenses publiques.
C'est pour la suspension de la réforme des retraites, en tout cas, vous n'avez pas censuré.
Exactement. Et pareil, du côté du PS, donc il y a une sorte de radicalisation. Certains LR risquent d'aller vers le RN et certains PS, dire d'aller vers LFI. Donc, bon, c'est quand même pas sérieux tout ça.
C'est déjà
le cas, mais ça va encore s'aggraver. Ça pour encore une fois gagner quelques mois à fier.
Eric Revel, et après, je vais vous demander une précision.
Je voudrais remettre un peu aussi sur la tête des LR, parce que si vous voulez, quand on fait un procès, à mon avis, légitime, quand on interroge le RN sur mais votre programme économique, il est plutôt libéral ou étatiste. Alors, la position économique des LR, c'est quoi aujourd'hui? Pardonnez-moi, mais ils votent par exemple.
La question, c'est quoi les LR?
Il y a 18 députés LR qui ont voté un budget de la Sécu en déficit de 20 milliards d'euros, 24 milliards d'euros. Bon, là aujourd'hui, ils vont voter un budget. Bon, ils vont pas le voter.
Là, Monsieur Retailleau, il est pas content. Il dit le budget proposé par le gouvernement.
Non, mais parce que Bruno Retailleau, on voit bien que c'est Mano à Mano avec Laurent Wauquiez qui lui dirige le groupe, alors que Bruno Retailleau essaie de reprendre la vague. Mais en fait, c'est quoi la position économique des LR?
Non, mais c'est quoi?
Moi, je serais chef d'entreprise aujourd'hui. Vous arrivez au pouvoir, vous taxez encore plus les entreprises,
ou
vous réformez l'État.
Madame de Montchalin vient d'annoncer que concernant les transmissions d'entreprises familiales, il y aura la fin de l'exemption fiscale pour les biens personnels. C'est important ça pour les chefs d'entreprise ou pas?
Moi, ce que j'attendais, mais je ne sais pas s'ils ont prononcé, c'était est-ce qu'ils prolongent ou pas le fameux pacte Dutreil? Parce que ça, c'est très important. Vous avez plein d'entreprises à taille intermédiaire qui vont changer de patron, de succession. En général, c'est des entreprises familiales. S'il y a pas, si ce pacte Dutreil n'est plus fiscalement intéressant pour cette transmission d'entreprise, eh ben, je vous donne mon billet. C'est déjà arrivé. Vous avez des fonds étrangers, chinois, américains qui vont venir prendre le contrôle de nos belles ETI en France.
Et c'est déjà le cas. Surtout, on a déjà une fiscalité.
C'est quoi les ETI?
Des entreprises à taille intermédiaire. Voilà, c'est de très très belles entreprises, en général familiales, avec plusieurs milliers de.
Regardez,
de
on en est arrivé.
Annonce à l'instant d'une.
On n'augmente pas trop les impôts.
Annonce à l'instant d'un dépôt de motion de censure du côté RN et LFI, c'était déjà annoncé. Tout est joué. Un dernier mot avant qu'on reçoive Bernard-Henri Lévy dans un instant, avec qui on va évidemment évoquer la situation internationale. Gauthier Lebret, c'est une façon pour Emmanuel Macron de clore cette séquence désastreuse, évidemment, pour lui et son gouvernement, de pouvoir se rendre à Davos, l'esprit libre, entre guillemets, et d'affronter Donald Trump, s'il arrive à le voir, sur le dossier du Groenland, de régler les sujets importants pour les Européens, de droits de douane, etc. Il y a quand même des gros sujets internationaux qui nous attendent.
Je suis d'affronter Donald Trump quand on envoie 15 soldats au Groenland pour une mission de 3 jours.
En résultat, on a 10% de hausse de taxes de droits de douane.
Oui.
Donc,
oui, et donc on va répliquer.
Il a réagi, Donald Trump. Il a réagi. Oui. C'était pas aussi ridicule que ça, non, je vous l'ai dit, Gauthier. Moi, je le pense franchement.
Non, arrêtez.
Mais non, mais je sais. Non, mais il s'agissait pas de déclarer la guerre aux États-Unis au Groenland. Mais la réaction de Trump, courroucé, si d'ailleurs la Cour suprême lui permet d'augmenter les droits de douane, ça va être intéressant de le voir.
Allez,
il a réagi quand même violemment. Ça veut dire que. C'était pas si ridicule.
Si on s'enferme dans une escalade avec les États-Unis, je suis pas sûr que ça soit nous les vainqueurs à la fin. Tant d'un point de vue territorial avec le Groenland que d'un point de vue économique avec les taxes douanières. Je vous rappelle juste que Ursula von der Leyen s'était complètement couchée face à Donald Trump dans ce mécanisme des taxes douanières. Donc il veut en rajouter. Si on veut jouer l'escalade verbale avec le président américain, je ne suis pas sûr que...
Il faut faire quoi, Gauthier?
C'est une vraie question.
On va poser la question dans un instant à Bernard-Henri Lévy. Juste une réaction, Rachel Kahn. Oui. À l'instant, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, condamne les propos de Rima Hassan, livré à une attaque contre Monsieur Retailleau, a-t-elle dit dans un meeting. Et le Monsieur Nunez condamne fermement ces propos indignes de notre démocratie pluraliste, tenus dans un contexte électoral qui devrait élever le débat et non l'abîmer. Face à cette attaque, j'apporte mon total soutien à Bruno Retailleau.
Non, mais évidemment, mais sauf que elle n'est pas à ses premières insultes et elle n'est pas à ses premières cibles dans le dos de personnalités. Aujourd'hui, il faudrait prendre à bras-le-corps ce qu'a fait cette personne sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a pu instrumentaliser du conflit, cette arrogance, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'elle est complètement sortie je ne sais pas si elle a été un jour, de l'arc républicain et surtout de sa responsabilité en tant que députée française au Parlement européen. Mais il y a toute une liste sur laquelle on pourrait réagir.
Il y avait d'autres propos hein, pour qu'elle a tenu.
Oui. François-Xavier Bellamy a porté plainte contre elle pour menace de mort. Mmh. Oui, évidemment, il y avait différents propos. Mais Rima Hassan, personne n'est surpris. Et je veux dire, elle dit que la France est un pays raciste aussi. Elle
oui,
dit pas seulement
Abba, raciste.
Voilà, Abba Retailleau, la France qui l'a naturalisée. Je veux dire, on naturalise des gens qui détestent la France. Donc déjà, faudrait faire attention à qui on naturalise. Parce qu'on naturalise quelqu'un qui déteste visiblement ce pays, pour dire que c'est un État raciste, qui l'a naturalisé. Ensuite, elle est devenue députée européenne française. Elle a donc
été française,
et élue par le peuple de France. Elle est députée européenne, elle nous représente dans ses interactions au Parlement européen, dans ses déplacements, dans ses prises de position, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, elle ne représente ni l'Europe, ni la France, ni ses intérêts. Elle a représenté à la limite les intérêts de l'Algérie, quand elle a été contre la libération de Boualem Sansal. De temps en temps, elle défend des terroristes, comme Georges Ibrahim Abdallah, quand elle va leur rendre visite en prison ou quand ils sont libérés au Liban. Et puis, bien sûr, évidemment, cette ambiguïté, qui n'est d'ailleurs plus pas une ambiguïté, avec les terroristes du Hamas, qui, selon elle, mènent une action légitime. C'est tout cela, Rima Hassan. C'est tout cela. Mais au fond, Rima Hassan interroge notre pays et la capacité qu'on a à se défendre face à des gens qui détestent ce pays, qui le détestent et qui mettent des cibles dans le dos, quand on ne sait pas François-Xavier Bellamy dans les couloirs du Parlement européen ou des journalistes sur Twitter, c'est Bruno Retailleau, Abba Retailleau. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est si ce n'est une incitation à passer à l'acte?
Absolument. Allez, contre l'ancien ministre. Vous allez en parler dans votre émission.
Ah, ça, je vais pas y manquer, oui.
À 21h. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Bernard-Henri Lévy sera avec nous. On va évoquer les dossiers internationaux qui inquiètent aussi beaucoup les Français. Cette menace des Américains à propos du Groenland, ses droits de douane et au fond, ses alliés qui risquent de s'affronter. On l'évoque dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.
Punchline sur CNews et Europe 1.
18h-19h, Laurence Ferrari.
On de la traconte.
Le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Crime, passion, faits divers.
Chaque jour, découvrez ou redécouvrez une histoire qui vous révèle les tréfonds de l'âme humaine.
Ça n'est pas un accident de chasse. Quatre cartouches, c'est une exécution.
On de la traconte. À écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Préparez-vous à voir toujours plus de matchs, toujours plus de buts incroyables, toujours plus de clubs réunis pour un même frisson. Avec Canal+, préparez-vous à vivre toujours plus d'Europe. Retrouvez l'intégralité de l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal+. Avec demain à 21h, Sporting Portugal, Paris SG sur Canal+ Foot et Real Madrid AS Monaco sur Canal+ Sport. Suivi mercredi à 21h d'Olympique de Marseille, Liverpool sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Chaque hiver, pour avoir bien chaud à la maison, c'est toujours le même dilemme. Soit je mets le chauffage, soit je mets un pull. Mais cette année, je vais plutôt mettre mon bleu de travail et lancer des travaux de rénovation.
Bonne idée, d'autant qu'à la Banque Postale, du 5 janvier au 1er mars 2026 inclus, nous vous réservons une offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels, auto, travaux ou projets.
Bon bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
La Banque Postale, citoyenne.
Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur.
CNews et Europe 1.
Nos débats reprennent dans un instant dans Punchline. Ne bougez pas, à tout de suite.
Punchline.
18h-19h.
Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Choisissez votre destination et nous irons ensemble par la mer. N'attendez plus et embarquez avec CFC Croisières pour des vacances d'exception tout en profitant du calme et du confort d'un navire à taille humaine. Terre en vue avec CFC Croisières. En ce moment, cédez à l'offre l'appel du large, réservé pour vous, et le deuxième passager est à moins 50%. Offre soumise à condition. plus d'informations au 0800 1 03 03 03, service et appel gratuit, et sur cfc-croisière.fr.
Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique, je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybrid est à partir de 239 € par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid dynamique blanc pur à partir de 239 € par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4 390 € réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Vos pommes gala françaises, elles sont vraiment...
délicieuses, pas chères.
Oui, mais surtout, vraiment...
ah, vraiment craquantes. Et du 20 au 24 janvier, les pommes gala françaises de verger éco-responsables sont à 1,29€ le kilo. Et il y a 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 170-200 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Professionnel, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable ? Découvrez Citroën Berlingo Van à seulement 159 € hors taxes par mois. Modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Découvrez également Berlingo Van XTR, notre version suréquipée. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 100 000 km. Premier loyer de 5 700 € hors taxes. Offre professionnelle jusqu'au 31 janvier. Si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
À 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Notre invité ce soir, c'est Bernard-Henri Lévy. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On a évoqué la situation politique française. Évoquons maintenant ce qui se passe à l'international. Les menaces sont grandes. Les nuages noirs pèsent sur notre horizon. Les Européens tentent de se défendre face à un Donald Trump dont on ne comprend plus les actions et les paroles. Il menace désormais 8 pays, dont le nôtre, la France, d'une hausse des droits de douane de 10% sur leurs exportations aux États-Unis en raison de notre opposition à son annexion de ou de force du Groenland. Que se passe-t-il aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy ? Les rapports de force sont complètement inversés. On vit un bouleversement qu'on n'a pas vu depuis 60 ans.
Ce n'est pas les rapports de force. Les rapports de force ont toujours été ceux-là, avec une Amérique surpuissante et gendarme du monde. Ce qui a changé, c'est les alliances. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois depuis 1945 et même depuis 1914, 1918, des États-Unis qui se comportent comme s'ils n'étaient plus les amis du reste de l'Occident. Comme si pour eux, on parlait avec le Danemark comme on parle avec la Russie, on parlait avec l'Allemagne comme on parle avec la Chine. C'est ça la vraie nouveauté. C'est que le critère des alliances ou des amitiés des États-Unis a changé. Ça n'est plus la vieille idée de défendre les valeurs occidentales.
Est-ce que vous pensez que ça a vraiment été un jour le projet des États-Unis de défendre les grandes idées ? Ce n'est pas défendre leurs intérêts. De tout temps, tous les présidents américains ont d'abord défendu les intérêts américains, Bernard-Henri Lévy.
Non. Quand ils ont libéré l'Europe du nazisme ou contribué à la libérer, c'était peut-être leurs intérêts, mais enfin, c'était
oui,
des valeurs.
William Gott, il voulait un système
anglo-saxon. Quand ils ont fini par arrêter le massacre en Bosnie-Herzégovine en 1994, qui est peut-être leurs intérêts, je ne vois pas lesquels d'ailleurs, mais c'était aussi parce qu'ils ont fini à défendre des valeurs, ils ont fini par défendre des valeurs. Il y a beaucoup d'exemples où les États-Unis se sont conduits conformément à ce qu'ils disent être, dans leur charte fondatrice, leur exceptionnalisme. Bien sûr que non, les États-Unis sont un grand pays, avec un grand credo, il y a quelque chose de beau dans l'idéologie américaine, mais qui est en train, là, qui aujourd'hui semble provisoirement en état de coma.
Pour autant, ils sont toujours nos alliés. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, notre ennemi, c'est l'Amérique ? Non, c'est impossible.
Non. Okay. Bien sûr que notre ennemi, c'est toujours la Russie, toujours les ayatollahs iraniens, toujours l'islamisme radical, toujours la Chine. Mais on ne peut plus compter, nous, les Européens, apparemment, pour l'instant, sur les États-Unis pour mener les combats dont je viens de vous, les bras de fer dont je viens de vous parler.
Est-ce que ce n'est pas justement le sursaut qui nous est ainsi proposé ? Réagir, on s'est endormi sous le parapluie américain depuis tant d'années.
Est-ce qu'il nous est proposé ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Trump ait eu dans l'idée de nous faire sursauter. En revanche, que les Européens aient un réflexe de survie, de défense, peut-être. C'est d'ailleurs ce qu'on observe, et tant mieux. Si c'est ça, ce sera en effet un réflexe de survie face à l'abîme, parce qu'on est au bord de l'abîme, là, vraiment. L'économie européenne, l'économie américaine aussi, parce que si les Européens répondent comme ils le devraient, et comme l'annoncent certains, dont le président français, s'ils répondent sur le même ton, tarif contre tarif, vous allez voir, le plus grand marché, le marché le plus important pour les exportations américaines, plus important au monde, c'est le marché européen. Mm-hmm. Si demain les Européens décident de répondre aussi par une guerre des tarifs très mauvais pour les agriculteurs américains, pour les industriels américains et pour la Silicon Valley.
Une question de Louis de Ragnel.
Oui, Bernard-Henri Lévy. Donald Trump vient d'annoncer la création de son Conseil de la paix, une sorte de conseil pour régler les affaires, alors officiellement pour l'instant de Gaza, mais on voit tous que l'objectif de Donald Trump, c'est de régler les affaires du monde. Le principe est simple, il propose à un certain nombre de pays d'y participer, chaque pays doit mettre $1 milliard cash, et ensuite on verra ce qui se passera. La question que je voulais vous poser, est-ce que selon vous, les institutions internationales et le droit international sont définitivement morts ?
Les institutions internationales sont... très mal en point.
L'ONU.
L'ONU, les grandes institutions qui en dépendent sont très mal en point depuis le 7 octobre et en fait avant. Je veux dire, les Nations Unies, leur entrée en agonie a commencé avec la guerre de Bosnie. À l'époque, il y avait le Gutiérrez de l'époque qui s'appelait Boutros-Ghali et dont les abandons, dont les trahisons à l'endroit de ce pays européen qui était la Bosnie-Herzégovine ont été à peu près du même ordre que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc en effet, 30 ans d'agonie, c'est sûr que les institutions nationales sont en mauvais état et qu'on ne peut plus compter sur elles, ni pour imposer la paix, ni pour promouvoir la justice, ni pour traiter avec équité les génocidaires, et les vrais génocidaires et ceux qui défendent leur peau, et ainsi de suite. Ça, c'est sûr.
Même le Conseil de sécurité des Nations Unies, selon vous ?
Ce Conseil de sécurité ne sert plus à rien. Regardez ce qui se passe pour l'Ukraine, regardez ce qui se passe sur tous les dossiers sensibles, regardez sur l'Iran. Vous avez deux pays qui font la loi au Conseil de sécurité par leur veto, qui sont la Chine et la Russie. Regardez toutes ces institutions aux Nations Unies où un comité de défense des femmes est dirigé par un Iranien, ou un comité de défense des droits de l'homme est dirigé fut dirigé par un Pakistanais, où la personne chargée, Madame Albanese, de la question du Proche-Orient est une antisémite quasiment affichée. C'est pas possible. Les grandes institutions internationales, pour que le droit soit respecté, elles doivent observer un minimum de neutralité. Et voilà, c'est pas le cas. Ni la Cour pénale internationale, non plus. Donc, c'est sûr...
On a changé d'époque. C'est-à-dire que maintenant, ce monde-là dont vous parlez est totalement révolu et on est rentré dans le monde des fauves. Vous pensez qu'un retour en arrière est possible ?
Un retour en... Rien n'est jamais définitif. Et un retour en arrière, enfin, est évidemment toujours possible, bien sûr. Là aussi, il peut y avoir sursaut. D'autant plus que, et encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un lent mouvement, mais il peut y avoir un mouvement inverse. Les choses ne sont jamais écrites. Il n'y a pas de fatalité en histoire. Se trompent autant ceux qui disent qu'on va automatiquement vers le progrès indéfini, hein, et ceux qui disent qu'on va automatiquement vers le déclin obligé. Ils se trompent autant, les deux. Ils oublient qu'il y a parfois des femmes et des hommes qui résistent à la fatalité et qui proposent quelque chose et qui, d'un seul coup, renversent la table.
Bernard-Henri Lévy, encore un mot du Groenland, cet immense territoire autonome danois. Le président Trump invoque des questions de sécurité nationale face aux Russes, face aux Chinois. Est-ce que vous entendez ceux qui disent qu'il vaut peut-être mieux que ce territoire, finalement, soit américain plutôt que russe ?
Je préférerais qu'il soit américain plutôt que russe, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ça le choix. Le choix, c'est qu'il soit... l'espace européen, avec un accord qui existe depuis des décennies et qui fait que les Américains peuvent y installer toutes les bases, peuvent y positionner tous les hommes, peuvent y placer tous les armements qu'ils jugeraient nécessaires.
C'est déjà le cas, hein, ils ont déjà une base.
Oui, alors peut-être pas, si c'est pas suffisant, mais qu'ils le disent, il y a un traité qui date de 1951 et qui leur donne toute latitude pour accentuer leur présence militaire. Donc le vrai choix, c'est celui-là. Et d'ailleurs, ce qui est triste dans cette histoire et un peu incompréhensible, c'est que le président américain, il n'invoque pas des raisons de sécurité nationale. Aux dernières nouvelles, il invoque deux raisons. Il dit, un, que ça lui est psychologiquement confortable, qu'il en a besoin psychologiquement, et il dit, deux, dans une lettre lunaire adressée au Premier ministre norvégien, que puisqu'on ne lui a pas donné le prix Nobel de la paix. Alors il ne se sent plus contraint par ce rôle qu'il s'était donné jusque-là de faiseur de paix. Donc, je ne sais pas quelles sont ses raisons. Est-ce que c'est son confort psychologique ou l'amertume de ne pas avoir le prix Nobel, ou est-ce que c'est des raisons de sécurité nationale? En tout cas, cela, si les États-Unis tenaient toujours, comme ils l'ont toujours fait, à cette grande alliance occidentale, ça devrait être discuté entre alliés.
Est-ce que vous avez pensé que Donald Trump a reculé sur l'Iran au dernier moment, alors qu'il avait dit aux manifestants qui se faisaient massacrer dans les rues, tenez bon, l'aide arrive. Est-ce que vous pensez qu'il a reculé et qu'il n'a pas envoyé ses bombardiers pour des raisons stratégiques?
J'espère. Je prie pour qu'il n'ait pas reculé et que sur ce point, peut-être cet attentisme obéisse à une stratégie secrète et à une ruse. Je prie pour cela, parce que sinon ce serait terrible. La plus grande démocratie du monde, qui dit au peuple iranien, descendez dans les rues, prenez les institutions, prenez l'appareil d'État, mémorisez bien le visage et le nom de vos bourreaux, parce qu'on arrive, et puis il ne se passe rien, c'est une responsabilité historique terrible. Rappelez-vous Barack Obama, en Syrie autrefois, qui dit à Bachar al-Assad, attention, il y a une ligne rouge, si vous la franchissez, vous allez voir ce que vous allez voir. La ligne rouge, les gaz chimiques. Bachar al-Assad franchit la ligne rouge, et puis finalement, il ne se passe rien. Mm-hmm. Moment terrible.
Il laisse tomber la France, Barack Obama.
Et il laisse tomber François Hollande, dont les avions étaient prêts à décoller. C'était le 29 août 2013. Ben c'est à peu près du même ordre. Si jamais les États-Unis vraiment n'intervenaient pas, ce serait du même ordre. Empire. Là, ce serait une responsabilité historique qu'auraient prise les États-Unis d'Amérique et qui est, je trouve, vertigineuse. Et l'amertume des Iraniennes et des Iraniens là-dessus, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, est immense.
Est-ce que l'Europe a été à la hauteur sur le dossier iranien? On l'a entendu?
Non.
Vous l'avez entendu?
Non.
La France, vous l'avez entendu?
Non, okay. Bien sûr que non. Mais elle n'est pas là non plus. À part les manifestants, à part les survivants du massacre qui se produisait jusqu'aux dernières heures et qui se poursuit sans doute aujourd'hui dans les prisons, personne n'est à la hauteur. L'Europe, être à la hauteur, ça voudrait dire, un, expulser les ambassadeurs et les diplomates iraniens et fermer les ambassades jusqu'à nouvel ordre. Ça voudrait dire, deux, sanctionner les indignes dignitaires de ce régime sanguinaire. Et ça voudrait dire, trois, prendre des mesures contre les pays qui soutiennent les dictateurs, les indignes dignitaires en question ou qui les financent indirectement. Pour l'instant, j'entends rien de ça. Et ça voudrait dire, quatre, inscrire le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. C'est ce que demande avec inlassablement depuis des années, d'ailleurs je crois, Raphaël Glucksmann au Parlement européen. Mm-hmm. Ce serait ça, être à la hauteur de l'événement.
La France
pour l'instant,
ne l'a
c'est
pas
vrai
fait,
que ce n'est pas
absolument.
Le cas.
Un dernier mot peut-être, Donald Trump a aussi menacé de laisser tomber l'Ukraine si on ne lui cédait pas sur le Groenland. Est-ce qu'il y a un espoir encore? Le président Zelensky sera à Davos demain ou après-demain. Il va rencontrer à nouveau les émissaires américains pour obtenir des garanties de sécurité liées à un cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a un espoir pour l'Ukraine ou pas si les Américains se retirent du jeu?
Alors, je trouve qu'il y avait de l'héroïsme et il y a maintenant de la sainteté chez cet homme, chez Zelensky, qui continue d'y croire, d'aller à Washington, de prendre le train de Kiev en Pologne, de passer la nuit, de risquer les bombardements, tout ça pour aller écouter...
Des balivernes?
Bah écoutez, des promesses qui se contredisent jour après jour et qui ne veulent rien dire. Deuxièmement, le vrai espoir pour l'Ukraine, comme pour l'Iran, parce que c'est la même chose, le vrai espoir pour l'Ukraine comme pour l'Iran, c'est, un, l'opinion publique américaine, qui n'aime pas ça. elle est l'opinion publique américaine dans sa majorité, elle ne comprend pas la politique actuelle sur l'Iran et sur l'Ukraine. Et deux, les Républicains...
Ni sur le Groenland.
Ni sur le Groenland non plus. Il y a des sondages massifs qui indiquent que c'est indéchiffrable. Et les Républicains américains normaux, ceux qui sont fidèles à l'héritage de Ronald Reagan, et qui, pareil, qui sont anti-totalitaires, qui voient l'Amérique comme défenseuse de la liberté, et qui ne comprennent pas qu'on puisse faire alliance avec les Mollahs après les avoir menacés, et qui n'ont pas compris, événement très important pour les républicains américains, qu'on déroule le tapis rouge en Alaska à Vladimir Poutine. Mmh. Ça, je peux vous dire que je connais des congressmen et women américains pour qui c'est resté en travers de la gorge, cette image-là.
Dernier mot, Bernard-Henri Lévy. Il y a un conseil de défense d'Emmanuel Macron qui s'est tenu aujourd'hui. Il a été question aussi de la Syrie. Et je sais que vous êtes beaucoup battu pour les Kurdes, pour reconnaître ce que les Kurdes ont fait. Ils ont désormais, ils vont avoir une situation un peu plus compliquée, puisqu'ils vont devoir intégrer l'appareil syrien, l'appareil d'État syrien. Ils voulaient garder leur autonomie. Ce sont eux, je le dis pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, qui gardent aujourd'hui les djihadistes de Daesh. Oui, oui. Quel est le risque pour nous autres
en Europe ? C'est un risque considérable. Parce que si... Moi, écoutez, j'ai visité un de ces camps, il y a quelques années, j'avais filmé ça pour un de mes films. Honnêtement, l'idée que les djihadistes sanguinaires de Daesh soient gardés par les Kurdes, j'étais plutôt rassuré. L'idée qu'ils soient entre les mains de l'ancien djihadiste Jolani, dont personne ne sait, ni vous, ni moi, ni le président de la République, ni le président des États-Unis, s'il a vraiment juste changé de costume ou s'il a changé d'idéologie, ça ne me rassure pas. J'aime pas l'idée que ces djihadistes-là, qui sont des hommes enragés, puissent être gardés par les anciens djihadistes reconvertis qui gouvernent aujourd'hui à Damas. Ça, c'est sûr. Un. Deux, il n'y a pas... c'est pas seulement l'intégration à l'armée syrienne. Il y a eu à Raqqa, il y a eu dans l'ensemble du Kurdistan syrien des morts, le sang a coulé, et nous n'avons pas bougé, alors que ces femmes et ces hommes, ces femmes combattantes, hein, vous savez que les Kurdes, c'est ce peuple où il y a des bataillons de femmes héroïques, ils nous ont défendus, ils ont fait barrière de leur corps face à Daesh, ils ont fait qu'il n'y a pas eu peut-être plus d'attentats en Europe, et le fait qu'on les laisse tomber me semble, là encore, extraordinairement choquant, et je vous remercie de me poser cette question, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler.
Et c'est un enjeu majeur, évidemment, vu le niveau de la menace terroriste dans notre pays. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui nous attend pour Europe 1 Soir, et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.
Comme tous les lundis, dans quelques minutes, nous allons retrouver Yves de Risbourg en compagnie d'un nouvel invité pour parler énergie et décarbonation des territoires avec Intergaz.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel ?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto ?
Yes.
À partir de 15 900 euros et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte ?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
Épargne, les taux des livrets continuent de baisser. Les rendements reculent mois après mois et la tendance semble se confirmer.
Oh là, encore une mauvaise nouvelle. Heureusement, moi, j'ai mon livret Distingo Bank. Stable, prévisible et sécurisé.
Les épargnants s'inquiètent d'une perte progressive de rendement.
C'est pourtant simple. Direction distingobank.fr. En ce moment, il y a un taux boosté et une prime de bienvenue en plus.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
Tu connais un réseau de serrurerie agréé, des portes blindées à prix léger ?
Point fort fiché, bien sûr.
Et pour bien commencer l'année, la TVA est offerte jusqu'au 27 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com.
Point fort fiché, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Groupe Assa Abloy.
Je suis ta beauté intérieure.
Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le Code de la Mutualité.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 euros par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
Bureau Vallée, une imprimante pour 8, c'est peu.
T'inquiète, on reçoit la nouvelle imprimante multifonction HP Office Jet Pro tout à l'heure.
Une chacun ?
Pas besoin, elle est ultra performante. Vitesse d'impression, jusqu'à 22 pages par minute.
Ah oui ? Rapide !
L'imprimante multifonction jet d'encre HP Office Jet Pro 9730, qui imprime en recto verso automatique jusqu'en A3, est à seulement 179,90€.
Professionnel, démarrez l'année du bon pied avec Bureau Vallée.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Jusqu'au 24 janvier, conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Wow.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple Montréal, à partir de 429 euros au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 4 au 15 février 2026 et du 9 au 22 mars 2026.
Europe 1.
Écoutez, c'est la grande famille d'Europe 1.
J'écoute Europe 1, je suis un fidèle auditeur, je dis ça depuis ma tendre enfance en fait.
Quel plaisir pour moi de vous parler, moi qui vous suis tous les jours.
Je vous écoute hein, tous les jours, c'est de la bonne humeur, je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail et j'ai vraiment passé un bon moment.
Soyez solidaires les uns des autres, aidez-vous toujours dans la vie.
Europe 1.
Ah, c'est un plaisir de vous avoir et vraiment ça fait chaud au cœur.
La radio libre.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous. Tout ça pour ça, l'histoire était écrite et nous vous le disions sur Europe 1. Sébastien Lecornu va actionner l'article 49.3 pour faire passer un budget invotable en l'état. Ceux qui croyaient encore à la fidélité des mots disaient « Mais non, il s'est engagé devant la responsabilité nationale ». L'épisode post-dissolution de ce second mandat d'Emmanuel Macron restera dans les mémoires. Grande page politique ce soir dans Europe 1 Soir, en même temps que sur